Puis Jésus vint. Puis, quand Jésus vint, il apprit que Lazare était resté dans la tombe 4 jours déjà. L'histoire de la résurrection de Lazare est une des plus grandes preuves de la messianité de Christ. Ce fut un grand événement qui, pour ainsi dire, enleva tout le vent des voiles des incrédules. Chacun sait que Dieu seul peut ressusciter les morts. Cet homme était resté mort et enseveli 4 jours. La décomposition avait déjà commencé. Il y a quelque temps, j'étais en discussion avec une dame qui se prétendait croyante. Elle me dit, « Monsieur Branham, j'admire votre prédication, mais il y a une chose dans laquelle vous vous trompez. » Je suis toujours heureux de trouver quelqu'un qui me dise où je me trompe, car je désire être dans la vérité, dis-je. Mais pour les choses spirituelles, ce n'est que la parole de Dieu qui nous permet de discerner le vrai du faux. Elle me dit, « Voici où vous vous trompez. Vous donnez trop d'importance à Jésus. Vous le faites Dieu et il n'était pas Dieu. » Je dis, « Madame, si vous pouvez prouver cela par la Bible, je l'accepterai, mais je ne crois pas que l'on puisse le faire. » « Je peux très certainement le prouver par la Bible, » répondit-elle. Quand je lui demandais où elle pourrait trouver une telle preuve dans la Bible, elle se référa à cette écriture dans le 11e chapitre de l'évangile de Jean. Elle croyait que le Christ n'était qu'un prophète, qu'un homme de bien ordinaire. Or, si Jésus n'était qu'un prophète, nous sommes tous perdus et dans l'erreur. Il n'était rien d'autre que Jéhovah Dieu révélé dans la chair. Il était Dieu. Et elle continua par ses paroles. Sur le chemin qui descendait à la tombe de Lazare, la Bible dit que Jésus pleurait. Ce n'était certainement pas divin. Cela prouve qu'il n'était qu'un homme. Je dis, oui, il pleura vraiment quand il alla à la tombe de Lazare. Mais quand il redressa ses épaules légèrement courbées, regarda à l'intérieur du tombeau et dit, « Lazare, sors !» C'était plus qu'un homme. C'était Dieu. La décomposition trouva son maître. L'esprit connut son créateur, et la tombe rendit un homme qui était resté mort 4 jours. Il se tenait sur ses pieds, et il vivait de nouveau. Sœur, Lazare fit un petit voyage de 4 jours quelque part. Je ne sais pas vraiment où, vous non plus, mais je sais que Jésus-Christ le connaissait par son nom et le ressuscita. Je crois qu'un jour il appellera depuis les cieux, et la terre et la mer rendront leur mort, et chaque homme qu'il connaît comme son enfant se tiendra dans sa présence. Il était homme quand il pleurait, mais il était Dieu quand il ressuscita le mort. Marthe, Marie et Lazare étaient des amis de Jésus, et le plus grand désir de mon cœur, c'est d'être son ami. Il ne pouvait y avoir de plus grand ami sur toute la terre que lui. Or, cette petite famille avait été excommunié de sa communauté religieuse à cette époque. Il avait tout abandonné afin de croire en lui. Habituellement, cela créera une petite agitation quand vous commencerez à croire en Dieu. Un jour, Lazare prit mal. Ils avaient besoin de Jésus plus qu'à aucun autre moment de leur vie. Il y eut alors une déception. Jésus était parti. Si vous lisez les Écritures, vous noterez que Jésus a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Nous découvrons dans la Bible qu'un jour, Jésus passait au travers d'une foule de gens quand une jeune femme toucha ses vêtements. Il dit qu'il avait senti une force sortir de lui. Combien pourtant la résurrection de Lazare fut plus grande que la guérison de la jeune femme. Et on ne trouve pas rapporté qu'il sentit une force sortir de lui à ce moment-là. Qu'était-ce dans un cas? C'était la femme qui utilisait le don de Dieu. Et dans l'autre cas, c'était Dieu utilisant son propre don. Or, c'est ce que vous voyez sur l'estrade quand vous assistez à mes assemblées. J'ai eu beaucoup de critiques et des gens me demandent ce qui me rend faible. Il n'est pas besoin d'essayer de l'expliquer. Je ne peux pas entièrement le faire. Mais je peux prouver cela par les Écritures. Les visions qui ont lieu sur l'estrade sont le résultat des gens qui utilisent le don de Dieu comme la jeune femme. C'est la foi individuelle. Puis, quand je suis à la maison ou autre part, et que le Seigneur me donne une vision, cela ne me rend pas faible. Quelquefois, la vision peut durer une heure ou deux, et au lieu d'être faible, quand j'en sors, je suis heureux et reposé. C'est Dieu prenant son don et l'utilisant. Or, quand Jésus reçut le message de Marie et de Marthe, il dit que la maladie de Lazare ne conduisait pas à la mort, mais était pour la gloire de Dieu. Il ne fait aucun doute que le Père révéla cela à Jésus, ou autrement, il n'aurait pu faire une telle promesse, et il ne serait pas resté où il était pendant deux autres jours. Souvent, nous pensons que c'est décevant quand nous tombons malades ou quelque besoin se fait sentir. Ne soyons pas découragés. Rappelons-nous que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et aussi que l'Éternel affermit les pas de l'homme de bien. Lazare avait pris mal, et ses sœurs envoyèrent chercher l'ami. Jésus était assis à leur table, il avait mangé avec eux, et plusieurs fois, et il lui avait peut-être fait un vêtement à porter. Il avait posé sa tête sur les meilleurs oreillers que Marthe et Marie avaient. Elles essayaient de lui montrer tout le respect qu'elles pouvaient. Et maintenant, quand elles avaient besoin de lui sérieusement, il différait sa venue. Pourquoi faisait-il cela alors qu'elle lui demandait un service? Il est des moments où nous sommes dans la même position. Nous nous demandons pourquoi c'est ainsi, puisque nous allons à l'église, nous vivons devant Dieu de tout notre cœur, essayons d'être des personnes justes, honnêtes, faisant tout ce que le christianisme demande. Pourquoi des choses de ce genre nous arrivent-elles? Or, sachez-le, souvent ce sont des bénédictions cachées. Nous n'avons pas besoin de les comprendre. Si nous voulons croire en Dieu, il les interprétera lui-même. Pouvez-vous imaginer les doigts méprisants tendus vers ces deux femmes impuissantes par les gens de Béthanie? Pouvez-vous les imaginer en train de dire « Où est votre ami maintenant ?» Vous voyez, quand le malheur arrive, il est parti quelque part, il refuse de venir vous aider. Vous savez que le diable n'est pas mort depuis cette époque. Il vit encore. Les gens étaient méprisants. Mais à l'heure la plus sombre, quand l'homme était depuis 4 jours déjà dans la tombe, ils apprirent que Jésus venait. On pourrait presque penser que Marthe avait le droit de sortir et de lui faire des remontrances pour n'être pas venue plus tôt. Mais elle montra sa foi fidèle et sincère. Un jour, elle avait lu une histoire dans les Écritures au sujet d'une femme tsunamite qui avait perdu son fils. Et la femme tsunamite avait reconnu Dieu dans le prophète. Sa foi dans le Dieu du prophète lui avait rendu son fils. Et si Dieu était dans son prophète, combien plus encore était-il dans son fils? Marthe ne reconnut pas l'homme qu'il avait en apparence déçu, mais le Dieu qui se trouvait dans cet homme. Elle dit, « Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Voilà, ce n'est pas l'action de l'Église, mais la puissance de Dieu qui est dans l'Église. Marthe montra où était vraiment sa foi. Je crois qu'en dehors, parmi les pentecôtistes, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens et les autres églises, il y a encore beaucoup de Marthe. Je crois que quand le malheur arrivera, elles montreront leur foi. Un jour, dans la province de Babylone, un grand événement eut lieu, décrivant ce matin où une fournaise avait été chauffée 7 fois plus que normalement. Et un serviteur du roi Nebuchadnezzar s'était avancé, commandant aux gens de se prosterner et d'adorer la statue d'or que ce dernier avait élevée. Mais il y avait 3 hommes, croyant en Dieu, qui refusaient d'obéir à l'ordre du roi. Ils restaient fermement fidèles à l'éternelle parole de Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 23. Je désire que vous le voyez. Dieu a toujours respecté un homme qui reste fermement fidèle à ses promesses. Cela ressemblait à un jour sombre pour Shadrach, Meshach et Abednego quand ils furent placés devant le roi. Peut-être leur a-t-il dit, « Maintenant, garçon, si vous voulez faire un petit compromis ici et changer ainsi vos décisions, nous vous laisserons une chance. » Mais vous savez que accepter un compromis n'appartient pas au cœur d'un croyant qui solennellement vit pour « Ainsi dit le Seigneur ». Ils dirent, « Si l'on est ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Daniel, chapitre 3, versets 17 et 18. « Oh, si le peuple de Dieu prenait seulement une telle position, par exemple, quand le temps est chaud et que le diable vous donne, femme, la tentation de porter ses vêtements scandaleux suivant la mode, n'acceptez pas de compromis. Vous avez pris votre décision pour le Christ. Suivez son chemin sans vous soucier du prix. Et si vous, homme, enleviez l'os de poulet de votre dos et si vous mettiez à la place une véritable colonne vertébrale, vous ne laisseriez pas votre femme s'habiller ainsi. Et Dieu vous considérerait pour cela. Vous savez ce qui est juste. » Et le roi Nebuchadnezzar commanda au plus puissant de son armée de lier ces trois hommes de Dieu et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ainsi, sur le chemin de la mort, les mains liées, ils montèrent sur la planche jusqu'au-dessus de la fournaise, restant fidèles à la promesse de Dieu qui ne pouvait se tromper. La chaleur était si intense qu'elle tua ces hommes vigoureux qui les faisaient avancer vers la fournaise. Et les hommes du roi s'étaient nourris de tous ces vins, de toute l'opulence du pays. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient que des légumes pour nourriture et de l'eau pour boisson, selon Daniel chapitre 1, verset Daniel chapitre 1, 6, 21. Leur corps aurait pu faire le poids physiquement pour les vigoureux soldats. Mais l'homme n'est pas jugé par ses muscles. L'homme est jugé sur sa personnalité. J'ai vu des hommes qui pesaient plus de 100 kilos, mais ils n'avaient pas en eux une once d'homme réel. La chaleur ne pouvait brûler leur corps. Dieu étant dans leur cœur, voilà la différence. La parole était ancrée dans leur cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, Jean 1, 1, 14. Et quand ils marchèrent vers la mort, se regardant les uns les autres, faisant les derniers pas vers cette fournaise ardente, cela leur semblait être l'heure la plus sombre qu'ils aient jamais connue. Puis Jésus vint. C'est ainsi qu'il fait. À l'heure la plus sombre, il n'y a qu'une chose que nous pouvons faire, rester fidèles aux promesses éternelles de Dieu, et Jésus viendra. Une nuit, un petit bateau se trouvait au milieu de la mer de Galilée, balancé çà et là, car les vents étaient contraires. Un petit groupe de disciples s'accrochait les uns aux autres, sentant que cela pourrait être leur fin. Sans aucun doute, des démons étaient assis sur chaque vague et disaient, « Nous les avons eus, ils vont arrêter de prêcher maintenant. » Le diable savait que les disciples étaient sortis sans le Seigneur. Mais qu'avait-il fait lui? Il était monté jusqu'au sommet de la montagne pour prier. Et de là, il observait ce petit bateau se balançant dans la mer. Matthieu 14, versets 22 et 23. Oh, je suis si heureux qu'il ait franchi les remparts de la gloire et qu'il se soit assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 3. Son œil est sur le passereau. Luc 12, 6 et 7. Et je sais qu'il me regarde. Il vous regarde. Juste à l'heure la plus sombre, quand chaque tangage semblait être le dernier, Jésus vint, marchant sur les flots. Je désire que vous en preniez note. Ils étaient inquiets, impuissants, sans espoir, désespérés. Et quand ils le virent, ils crièrent de peur. C'était le seul qui pouvait les aider, et ils avaient peur de lui. À cette grandeur de l'ère atomique, quand le monde est désespéré avec l'opposition entre les nations et l'annihilation la plus complète possible, Jésus lui-même se révèle vivant dans cette heure si sombre. Jésus est là, mais le monde a peur de lui. Je suis si heureux que Jésus avance au milieu de son Église. Jamais l'Église n'a été si fragmentée, autant mise en pièces, jamais elle n'a été ainsi consumée, dénominationnellement. Il y a tant de différences, tant de sensations et de choses qui évoluent dans les églises. Mais juste au milieu de tout cela, juste à l'heure la plus sombre, Jésus arrive pour se montrer lui-même et montrer son amour pour son Église. De l'autre côté, sur l'autre rive, vivait une jeune femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait. Elle l'avait dépensé chez les médecins, mais aucun d'entre eux ne pouvait l'aider. Et son état ne faisait qu'empirer. Tout espoir s'était enfui. Rien ne pouvait soulager son pauvre corps faible. Elle avait entendu parler de Jésus, mais il était tout à fait de l'autre côté de la mer. Peut-être avait-elle dépensé ses derniers centimes. Elle était encore malade et faible. Mais, juste à l'heure la plus sombre, un petit bateau accosta au rivage, et Jésus vint. Oh, il fit cela. Or, elle ne pouvait même pas aller vers Jésus. Mais c'est une chose bénie, que bien que vous ne puissiez pas aller vers lui, il peut venir à vous. Et il n'a jamais à aucun moment failli. Un jour, de l'autre côté, au pays des Gadaréniens, vivait un citoyen sociable qui craignait Dieu. Peut-être bien qu'il était marié, il avait un ou deux enfants, mais il se trouva mêlé à la mauvaise foule. C'est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes se perdent, quand ils se trouvent mêlés au mauvais groupe, au mauvais compagnon. Il en fut ainsi pour cet homme. Une nuit, il était sorti, il prit une boisson alcoolisée, il avait peut-être même joué un peu d'argent, ses amis disaient que ça ne lui ferait pas de mal, et le premier démon entra en lui. Il alla chez lui et il dut dire un mensonge à sa femme. Et le second démon entra en lui. Et il ne mit pas longtemps à être possédé par Légion. Il ne pouvait plus recevoir aucune aide et le pauvre fut chassé dans les sépulcres. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Aviez-vous déjà remarqué comme le diable aime habiter dans les sépulcres, rester autour d'un vieil endroit mort? Cela n'exclut pas les églises non plus quand elles deviennent mortes. Ils avaient lié cet homme de chaînes, mais ils les rompaient l'une après l'autre. Quand quelqu'un est possédé par le diable, il peut posséder plusieurs fois sa force normale. Et si le diable peut vous donner plus de 2 fois votre force, que pensez-vous que Dieu puisse faire pour vous? Que peut-il faire pour vous qui êtes malade dans l'esprit ou dans le corps? Si le diable peut vous conduire dans un bar au dehors, dans la rue de façon immorale, et si le diable peut vous amener à tromper votre femme, ou voler, mentir, ainsi de suite, combien plus encore peut faire Dieu quand il prend pleine possession de vous? Et cet homme, habité par la Légion, qui avait été un honnête homme, mais il demeurait maintenant sans espoir, il était dehors dans les sépulcres avec le diable, année après année il devenait si furieux que personne n'osait passer par là. Matthieu 8, 28. Or, il ne voulait pas faire de mal à quelqu'un, car il connaissait ce qui était bien. Mais chaque fois qu'il voyait quelqu'un, le diable poussait à aller essayer de tuer cette personne. Ainsi, chacun le craignait. Il avait été excommunié de toute société. Le diable lui avait fait perdre l'esprit. C'était l'heure la plus sombre. Il n'avait jamais eu l'expérience de sa vie d'une heure aussi sombre. Et c'est alors que Jésus arriva. Jésus chassa les démons de son corps et ils entrèrent dans un troupeau de pourceaux et les pourceaux allèrent se noyer eux-mêmes. Je me demande combien fut efficace son témoignage parmi les éleveurs de porcs de cette région. Ils ne voulaient pas un réveil. Ils supplièrent Jésus de quitter leur territoire. Un réveil aurait pu leur coûter quelques pourceaux. Ils se sentaient mieux à la maison avec leurs porcs et les démons qu'avec le Seigneur Jésus. Ils voulaient les pourceaux. Et ils prièrent Jésus de partir. Et il en est bien ainsi de nos jours. Les gens préfèrent garder une vieille position banale, conventionnelle et impie, indifférente, plutôt que de se remettre en bonne position avec un peu de dérangement ça et là. Je préférerais avoir cela 1000 fois qu'une. Mais eux, ils se sentaient mieux chez eux, avec les démons et leur vieille position, buvant, fumant, jouant, portant peu de vêtements, faisant gonfler leurs cheveux et faisant toutes sortes d'autres convenances mondaines, plutôt que d'être appelés démodés et d'avoir Jésus dans leur maison. Oh, je préférerais l'avoir 1 million de fois plutôt qu'une. C'était l'heure la plus sombre quand Jésus arriva. Je m'imagine l'homme, habité par la Légion, rentrant chez lui, retrouvant sa demeure habituelle. Sa femme avait dû probablement vendre l'endroit et se demandait où elle était, alors qu'il cherchait de place en place. Quelqu'un lui dit probablement qu'elle vivait au fond de l'allée. Et quand il descendit là-bas, vers le léger petit abri délabré, ses enfants couverts de leurs vieux habits déchirés le virent venir, ils coururent se cacher. Sa femme attrapa son vieux châle, le mit en s'éloignant de lui en courant. Mais il cria, « Ne cours pas, chérie, viens ici vers moi, je veux t'entourer de mes bras, mon doux cœur. Venez, enfants, que je vous prenne dans mes bras. » « Oh, dit-elle, que t'est-il arrivé ?» Il dit, « Jésus est venu. » C'est là qu'est la différence. « Oh, femme, enfant, venez ici !» C'était l'époque la plus sombre pour moi. Les démons me tourmentaient. C'est alors que Jésus vint. Il y avait un homme qui était couché sous les portiques de la piscine de Bethesda. Et il était infirme depuis 38 ans. Jean chapitre 5, verset 2 à 9. Il devenait vieux, et quand l'ange agitait l'eau, il y avait toujours quelqu'un d'autre avant lui. L'histoire nous rapporte que les gens se frappaient même les uns les autres dans leurs efforts pour arriver les premiers dans l'eau. Jésus vint à lui, et il dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Oh, cela fait chanter « Alléluia » au cœur humain quand on pense à cela. À l'heure la plus sombre, Jésus vint. Il y avait un mendiant aveugle nommé Bartimée, assis aux portes de Jéricho. Tous ses espoirs s'étaient envolés. La chance était contre lui. Les gens étaient contre lui. Et juste à l'heure la plus sombre, Jésus vint. Marc 10, versets 46 à 52. Il changea son obscurité en lumière. Tout se remet en ordre quand Jésus vient. Après la résurrection du Christ, un groupe de courageux disciples s'était éparpillé en divers endroits. Il ne fait aucun doute que Pierre a dit quelque chose de ce genre à quelques-uns des disciples. « Eh bien, je vais aller à la pêche. Je suis si découragé. Comment se pourrait-il que celui que j'ai entendu appeler Lazare hors de sa tombe ait été crucifié lui-même ? J'ai vu Lazare s'avancer hors de la tombe après être resté mort pendant 4 jours. Je me tenais là, près de la porte de la ville de Naïm, quand on porta en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Jésus fut ému de compassion pour elle, et touchant leur cercueil, il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et je le vis revenir à la vie, Luc 7, 11 à 17. Je le vis aussi changer l'eau en vin aux noces de Cana, Jean 2, 1 à 11. Je le vis toucher un lépreux qui était aussi blanc que la neige. Et immédiatement la lèpre quitta ce dernier, Marc 1, 40 à 45. Comment se pourrait-il qu'il soit cloué sur cette croix, tandis que des soldats moqueurs lui crachent au visage, Matthieu 26, 67. Comment se pouvait-il qu'il fasse le sacrifice de sa vie et qu'il leur permette de transpercer ses mains et ses pieds avec des clous? Comment se peut-il qu'il permette qu'une couronne d'épines soit posée sur sa tête? Matthieu 27, versets 27 à 32. Comment pouvait-il rester là pendant qu'ils le fouettèrent jusqu'à ce que son dos soit mis en lambeaux et que les côtes se montrent à travers? Comment se pouvait-il qu'il les laisse le traiter de la sorte? Comment se pouvait-il qu'il soit pendu là entre ciel et terre, le sang coulant de son côté, alors que les prêtres moqueurs, ses ennemis, éminents, passant près de lui en le souffletant? Comment pouvait-il les laisser couvrir sa face de crachat et le frapper en disant, « Ô Christ, devine qui t'a frappé ?» Matthieu 26, 68. Et comment se pouvait-il qu'il laisse les chefs des prêtres en disant, « Sauve-toi toi-même en descendant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons ?» Marc 15, versets 29 à 32. Comment se pouvait-il qu'une personne puissante comme cela, que nous croyons être le Fils de Dieu, ait pu un jour passer par de tels tourments et par des traitements de telle sorte en restant silencieux? Oh, c'était une heure sombre, l'heure la plus sombre que Pierre ait jamais vue. Il avait vu Jésus laisser retomber sa tête et mourir. Il était présent quand on retira les clous et que le corps de Christ fut enlevé de la croix pour être déposé dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Il avait vu cette grande pierre rouler à l'entrée du sépulcre et le sceau romain que l'on avait apposé. Comment cela se pouvait-il? Il était si découragé qu'il dit, je vais à la pêche. Et quelques-uns des autres disciples lui dirent, nous aussi nous allons avec toi. Et toute la nuit, découragés, ils avaient pêché et rien pris. Le Seigneur était parti. Il semblait que tout était fini. Ils ne pouvaient même pas prendre un poisson. Même pas un au moins. C'est alors que, juste à l'heure la plus sombre, quelqu'un s'est assis à leur table et a dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jean 21, verset 3 à 5. En ce premier beau matin de Pâques, quand le monde était en plein épanouissement avec des bourgeons et des fleurs, les disciples ne savaient pas que Jésus était ressuscité des morts, qu'il se trouvait parmi les vivants. Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs étaient très découragés, mais ils méditaient les Écritures. Je désire que vous remarquiez que c'était parce qu'ils parlaient des Écritures que Jésus apparut. C'est généralement exact que quand nous parlons de lui ou que nous pensons à lui, alors il s'approche. Et quand il s'avançait sur cette route, c'était une heure sombre pour lui. Tout espoir semblait perdu. Mais à ce moment, Jésus vint en scène. Il était là, mais d'abord, ils ne le reconnurent pas. Luc 24, 13 à 31. Je suis sûr que c'est le défaut de nombre de nos églises, des dénominations de nos jours. Jésus est présent, mais elles ne le reconnaissent pas. Elles ne s'en rendent pas compte. La fédération épiscopale a rassemblé beaucoup de nominations. Même les frères du plein évangile diffèrent, s'agitent sur des petites différences insignifiantes de l'Écriture. Chaque dénomination se divisant elle-même, ayant ses propres disciples. Il apparaît presque pour beaucoup de prédicateurs que le ministère ne sert qu'à obtenir un ticket pour la nourriture, au lieu de servir pour le salut des âmes. Il a même été proposé que tous les prédicateurs qui n'appartiennent pas au conseil des églises ne puissent plus prêcher à la radio ou à la télévision. L'heure d'un où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16:2. Mais vous savez ce qu'il en est, frères et sœurs. Juste à cette heure la plus sombre, Jésus est arrivé. Il se révèle lui-même vivant, jour après jour, nuit après nuit, il est avec nous. Laissons-les lancer toutes leurs bombes atomiques. C'est à leur niveau, mais il y a une chose que je sais. Mon espoir est bâti sur rien de moins que le sang de Jésus-Christ et sa droiture. Et quand tout autour de moi, on me trahit, il est alors tout mon espoir, il demeure avec moi. Et je reste fermement attaché au Christ sur le solide rocher, alors que tout autre sol s'enfonce comme du sable. Que pensez-vous du Christ ? Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Matthieu, chapitre 22, versets 41 et 42. De cette partie de l'Écriture, prenons pour texte les cinq petits mots, « Que pensez-vous du Christ ?» Ces cinq mots sont importants car ce sont les mots de Dieu. Chaque mot de Dieu a de la valeur car il exprime la pensée de Dieu. Au commencement, Dieu exprima ses pensées et quand il le fit, cela devint un document signé. Nous lisons, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Ésaïe 14, 24. Personne n'est meilleur que sa parole. La Bible est la parole de Dieu rapportée par des saints à qui Dieu a permis d'entrer dans un royaume où ils pourraient voir ce que Dieu a dit au commencement. Car tout au commencement, Dieu connaissait toute chose qui existerait jamais. Ainsi, vous voyez, la valeur extrême de la parole et l'importance de vous y conformer. Il y a quelque temps, j'ai entendu parler d'un petit garçon qui regardait autour de lui dans un grenier quand il trouva un petit timbre de poste. Il n'avait peut-être pas plus d'un pouce carré de surface. Voyant que c'était un vieux timbre, il l'apporta à un collectionneur de timbres qui le lui paya $1. Et le collectionneur de timbres, à son tour, le vendit $50. Il continua à changer de main jusqu'à ce que sa valeur soit estimée à plusieurs milliards de dollars. Or, ce n'était pas le petit morceau de soie de papier en soie qui avait une si grande valeur. C'était ce qui était imprimé sur le papier qui faisait toute sa valeur. Il en est ainsi de notre petit texte. C'est la parole du Dieu vivant qui est imprimée sur le papier qui lui donne de la valeur. Quand le Seigneur dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » dans Matthieu 24, 35, cela montre que la parole de Dieu est infaillible, quelle que soit sa longueur. Souvent, nous pensons que quelque chose de court n'est pas remarquable, mais Jésus a dit « Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant pas un d'eux n'est oublié devant Dieu ». Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Luc 12, versets 6 et 7. Dieu remarque des petites choses. Souvent, il se peut que nous considérions les conditions autour de nous et visions que nous ne pouvions rien y faire. Mais rien qu'un petit mot gentil à quelqu'un, une invitation, un petit témoignage, un sourire gentil ou un salut à un passant pourrait signifier plus que vous ne le pensez. Le dernier roi Georges visita la province de la Colombie-Britannique alors qu'il était au Canada il y a quelques années et tous les enseignants renvoyèrent les enfants des écoles pour qu'ils puissent aller voir le roi. Ils avaient tous des drapeaux pour montrer leurs sentiments patriotiques envers lui et les jeunes enfants étaient supposés agiter leurs drapeaux quand son Altesse le roi passerait. Après que le roi soit passé, un professeur remarqua une petite fille qui restait en suspens, sa tête posée contre un poteau téléphonique, pleurant à se fendre l'âme. Et le professeur va la réconforter et lui demanda « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ne pouvais-tu pas agiter ton drapeau ?» Elle dit « Oui, professeur, j'ai agité mon drapeau. »« Pourquoi, dit le professeur, n'as-tu pas vu le roi ?»« Si, professeur, j'ai vu le roi, répondit la petite fille. »« Alors pourquoi pleures-tu, ma chérie ?» Elle répondit « J'ai agité mon drapeau, j'ai vu le roi, mais j'étais si petite que le roi ne m'a pas vu. » Eh bien, il n'en est pas ainsi avec Christ. Peu importe combien petit vous êtes ou combien insignifiant vous puissiez vous sentir, il voit chacun de vos mouvements. Ce petit passage de l'Écriture « Que pensez-vous du Christ ?» réclame une décision de votre part. Cette décision déterminera beaucoup de choses. Elle pourrait signifier votre guérison physique. Votre conception du Christ peut déterminer si vous pouvez quitter cette voiture d'infirme ou non. Ou bien encore, si vous pouvez ou non sortir de ce lit de souffrance. Cela peut signifier la différence entre la vie et la mort pour beaucoup d'entre vous. Et amis pécheurs, cela déterminera votre destination éternelle. Que pensez-vous du Christ? Or, peu importe combien d'emphase j'essayerai de mettre, toutefois ça ne sera d'aucun effet pour vous, à moins que vous ne le receviez et que vous ne l'acceptiez pour vous-même. Cela ne peut pas être appliqué par une organisation, ou par une dénomination, ou par papa ou maman. Cela doit être appliqué par votre foi personnelle. Que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous qu'il soit? Le considérez-vous comme un homme de bien qui mourut il y a 1900 ans? Pensez-vous qu'il ne soit qu'un autre Mahomet, ou Bouddha, ou quelque grand philosophe, professeur, prophète ou poète? Ou croyez-vous vraiment qu'il est le Fils infaillible du Dieu vivant, qui est ressuscité des morts et qui est ici présent pour vous donner les désirs de votre cœur? Ou que la parole de Dieu soit écrite, elle nous apporte son message. Rappelez-vous, aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Josué 23, 14. C'est un pardon pour le péché, c'est un apaisement pour la maladie, c'est un remède pour la lassitude. Oh, elle porte en elle toutes les choses dont nous avons besoin dans ce voyage et dont nous avons besoin dans le grand autre monde. Or, un pardon n'en est pas un s'il n'est pas accepté en tant que tel. J'ai lu un jour un article sur un incident qui se passa il y a plusieurs années dans un pays étranger. Un homme coupable fut condamné à mourir sous le feu du peloton d'exécution. Et une personne compatissante persuada le gouverneur de donner le pardon au condamné, épargnant par là sa vie, lui donnant une autre chance d'être un citoyen utile. Quand le condamné reçut la missive de son pardon, signée par le gouverneur, il refusa de l'accepter. Cela appelait le pardon pour lui, s'il voulait le recevoir. Mais il ne voulut pas y croire, n'acceptant pas le pardon. Il dut payer la sanction et il fut tué le lendemain matin. Le document revint au gouverneur. Il avait pardonné au coupable. Cependant, l'homme mourut à cause de son péché. La situation fut amenée devant les cours de justice du pays, où il fut déclaré qu'un pardon n'est pas un pardon s'il n'est pas accepté. Le salut par Jésus-Christ n'est pas le salut s'il n'est pas accepté. Oh, si le monde regardait seulement les grandes promesses de Dieu et croyait en elles, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées, aucune n'est restée sans effet. 1 Roi 8:56. Elles sont le pardon de Dieu à la race humaine. Que pensez-vous du Christ? Cette question déjà vieille a été soulevée dans l'esprit des gens à travers les siècles. Aujourd'hui même, quelques-unes de nos églises protestantes, parmi elles, on croit et on pense qu'il n'est pas le Fils de Dieu né d'une vierge, mais un simple prophète. Or cela ébranle chaque fondation de dessous le christianisme. Il était ou le Fils de Dieu né d'une vierge, ou son sang n'était pas plus que votre sang ou mon sang. Le sexe n'avait rien à voir avec lui. Le Dieu Tout-Puissant prit sous sa protection la Vierge Marie, elle mit au monde le Fils, le Christ Jésus, par la vertu de l'Esprit Saint, et pour former une cellule dans le sein d'une femme qu'aucun homme ne connut. Matthieu 1,18. Et ma foi repose uniquement sur ce sang inaltéré et saint, et sur rien d'autre pour mon oubli du péché, car il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4,12. Je crois fermement que c'était le sang de Dieu. Appelons quelques témoignages et retirons-en ce qui aurait été dit par Jésus, de Jésus, par quelques-uns qui sont morts. Qui aurions-nous entendu si nous pouvions appeler, par exemple, Judas l'Iscariote? Le nom même Judas tend à vous faire trembler. Or, le mot Judas n'est pas un si mauvais nom. Peut-être que quelques petits garçons juifs s'appelaient Judas jusqu'à cette époque. Le nom venait de la tribu de Judas. C'est ce que Judas fit qui entraîna les gens à éviter ce nom. Et qu'est-ce qui rend le nom de Jésus si sacré? Il y a eu beaucoup de petits garçons du nom de Jésus, mais c'est ce que Jésus fit et ce qu'il est qui rend son nom si respectable. Qu'à ce saint nom, tout genou doit fléchir. Philippiens 2,10. Ce n'est pas tant ce qu'est votre nom, mais ce que vous faites avec votre nom. Supposons que nous puissions descendre jusqu'aux régions des hommes perdus et damnés. Supposons que nous puissions aller à cet endroit ennuyeux, appelé l'enfer, et que nous puissions appeler l'esprit trompeur de Judas l'Iscariote en notre présence maintenant. Nous lui demanderions, Judas, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Je m'imagine que nous pourrions entendre les 30 pièces d'argent teintées lorsqu'il les jetterait au sol et crierait de nouveau, « J'ai trahi le sang innocent !» Qu'entendrions-nous si nous pouvions aller dans les régions enflammées des âmes perdues et appeler le soldat romain qui prit la lance et la planta dans le corps sacré du Christ? Nous dirions, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Je peux l'entendre dire, « Vraiment, il est le Fils de Dieu !» Supposons que nous puissions trouver Pilate, ce fameux gouverneur de Rome. Vous vous souvenez de Ponce Pilate, devant lequel le Christ fut amené tôt en ce matin historique? Regardons-le un instant. Là, il se tenait assis sur le siège du jugement, peut-être un peu irrité d'avoir eu à se lever tôt pour prendre une décision au sujet de Jésus-Christ le Galiléen. Oh, mon frère, ma sœur, Christ est aussi placé devant toi. Tu dois prendre une décision à son sujet. Que pensez-vous de lui? Vos actions auront bien plus de poids que vos paroles. Et là, devant Pilate, se tenait le roi du ciel, une couronne d'épines sur la tête, les mains liées derrière son dos. Et Pilate le regardait de près. Quand il demanda à Jésus, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Matthieu 27, 13. Quand Jésus, résolu, ne répondit aucun mot, je peux m'imaginer Pilate disant, « Eh bien, il est épouvanté parce qu'il se tient devant moi, un gouverneur de Rome. » Soudain, un cheval au galop arriva à toute allure. Un soldat tenant un morceau de papier à la main sauta de la selle. Reconnu comme un garde du palais, il fut prié d'entrer dans le jardin. Il me semble que je peux le voir monter rapidement devant Pilate, se plier jusqu'au sol et dire, « Votre Majesté, sire, j'ai une lettre de votre femme. Elle a dit qu'il était urgent que vous la receviez de suite. C'est pourquoi je suis venu ainsi. » Je peux voir Pilate ouvrir la lettre. Je regarde ses yeux lorsqu'il devint d'une froideur glaciale. Il regarda Jésus, puis de nouveau sa lettre. Il fronça les sourcils. Son visage devint blanc, ses lèvres perdirent leur couleur. Que peut-il y avoir de si important dans cette lettre envoyée par sa femme païenne? Regardons par-dessus ses épaules et lisons ce qui s'y trouve. Mon cher mari, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Matthieu 27, 19. Pilate aurait pu le relâcher, il aurait pu l'embrasser et lui dire, Jésus-Christ, je me courbe devant toi, je te reconnais comme le Fils du Dieu vivant, je désire te recevoir comme mon sauveur. Mais au lieu de cela, il essaya de se justifier comme beaucoup de pécheurs dans le monde de nos jours. Il prit un peu d'eau, il essaya de s'en laver les mains. Peut-être a-t-il dit, je ne veux pas l'accepter, mais je ne veux pas non plus le rejeter. Cela lui lava-t-il les mains? Non! Et cela ne vous lavera pas non plus les mains. Votre nom dans un livre d'église, pas plus qu'autre chose, n'enlèvera jamais le sang de Jésus-Christ des mains de l'homme ou de la femme qui a entendu l'Évangile et qui l'a rejeté. Le Christ se tient devant vous. Vous devez faire un choix. Dieu vous appelle à faire un choix. Ou vous l'acceptez, ou vous le reniez. Il est sur vos mains. Faites votre choix. Pilate, selon l'histoire, fut plus tard détrôné et envoyé en exil. Et la tradition nous dit qu'il perdit l'esprit et qu'il laissait passer les heures se frottant les mains l'une contre l'autre, comme s'il voulait les laver du sang du Fils de Dieu. Il se suicida finalement en se jetant dans un trou d'eau et en se noyant. Mais supposons maintenant que nous puissions appeler Pilate devant nous et lui dire, « Pilate, tu es mort depuis presque 2000 ans. Je désire te poser une question à laquelle tu pourrais nous répondre aujourd'hui. Que penses-tu du Christ? Quelle est ton opinion à son sujet ?» Il ne fait aucun doute que nous entendrions son vieux cri inutile qui s'est répercuté en écho à travers tous les siècles. « Je suis innocent du sang de cette personne juste. » Veillez à cela. Nous avons entendu les paroles de plusieurs personnes qui l'ont rejeté. Celui-là même qui pouvait se placer parmi ses ennemis. Voyons maintenant ce que quelques-uns de ses amis diraient. Supposons que nous puissions appeler les trois enfants hébreux ici devant nous. Oh, vous amis bien-aimés de Dieu, que pensez-vous de Christ? Vous avez vécu plusieurs centaines d'années auparavant qu'il fut manifesté un jour dans la chair. Mais il me semble entendre Shadrach dire, je parlerai pour nous trois. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne faisons qu'un dans l'espérance, dans l'amour et la doctrine. C'était un matin lugubre quand nous fûmes jetés dans la fournaise ardente qui avait été chauffé cette fois plus qu'auparavant. Mais là, au milieu du feu, nous ne sentîmes aucune brûlure, pas même un cheveu ne fut brûlé. En fait, nous étions très à l'aise, car là, au milieu de nous, se tenait le véritable Fils de Dieu. C'est ce que nous pensons de lui. Ézéchiel, tu as été un prophète de Dieu. Que penses-tu du Christ? De qui est-il le Fils? Un jour, dit Ézéchiel, alors que l'Esprit de Dieu était sur moi, je levais les yeux dans les cieux, je le vis venir, les nuages étaient comme de la poussière sous ses pieds, je vis une roue au milieu d'une roue, se dirigeant vers le ciel, au milieu de l'air, c'est le seul qui répandra de l'eau pure sur vous et vous serez purifiés, c'est le seul qui mettra en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Daniel, témoigneras-tu? Il est plus que sûr que je témoignerai, répond-il. Dieu m'a révélé le secret profond des choses par des visions. Je vis dans l'une de ces visions quelqu'un, comme le Fils de l'homme, venir dans les nuées du ciel. Il lui fut donné la souveraineté, la gloire et un royaume dans lequel tous les gens, toutes les nations et les langues devaient le suivre et le servir. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. Béni soit le nom du Seigneur pour les siècles des siècles, car la sagesse et la puissance sont ses attributs. Interrogeons Pierre. Il était avec Jésus. À travers une grande partie de son ministère terrestre, il vit les miracles que Jésus a accomplis, il vit la vie qu'il a vécue. Et si Pierre pouvait répondre à votre question aujourd'hui, sans aucun doute, il réaffirmerait sa conviction précédente, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, questionnons la mère de Jésus. Si quelqu'un devait savoir de qui il était le Fils, sa mère devrait le savoir. Marie, veux-tu témoigner de qui est Jésus? Certainement je le veux, répondit-elle. Respectueusement, Marie, tu es sa mère. Il resta les 9 premiers mois près de ton cœur. Que penses-tu du Christ? De qui est-il le Fils? Je ne connus aucun homme, confirmerait-elle, mais un jour, le grand ange Gabriel me fut envoyé par Dieu, et il m'a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, verset 31-36. Le mot final qui devrait l'installer devant tous les gens de toutes les nations, en fait, devant à la fois le ciel et la terre, c'est la réponse de Dieu lui-même. Voyons ce que Dieu dit de Jésus un jour sur le mont de la Transfiguration. Arriva du ciel un gros nuage qui couvrit de son ombre Jésus et 3 de ses disciples. Le visage de Jésus brilla comme le soleil, et son vêtement devint blanc comme la lumière. Et Dieu parla du haut du nuage et il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Matthieu 17, 5. C'est la propre parole de Dieu. Cela devrait l'installer une fois pour toutes. Mais pour continuer, tous les témoignages, voici encore ceux de quelques personnes qui ont vécu à notre époque. Interrogeons-en quelques autres. Appelons un poète pour répondre à nos questions. Édith Péronnet, ses écrits furent rejetés, mais il aimait le Seigneur. Il n'alla pas vers le bras de la chair, mais il alla vers Dieu qui répond aux prières. Se trouvant ainsi un jour sous l'inspiration du Saint-Esprit, Édith Péronnet ramassa sa plume, écrivit le chant d'inauguration. Saluez tous la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent, apportez le diadème royal et couronnez le Seigneur de tous. Puis voici William Kemper qui apporta son témoignage de Christ dans les paroles d'un chant immortel. Voici une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel, et les pécheurs qui ont plongé sous ce flot perdent toutes les souillures de leur faute. Alors dans un chant plus noble, plus doux, je chanterai ta puissance de salut quand cette pauvre langue balbutiante sera étendue là, silencieuse, dans la tombe. Et l'aveugle Fanny Crosby fut critiquée, méprisée pendant toute sa vie parce qu'elle ne voulait pas écrire des chansons à la mode. Appelons-la et apprenons ce que le Christ signifiait pour elle. Fanny Crosby, que pensez-vous du Christ? Qu'est-il pour vous? Il me semble que je peux entendre ses propres mots. Ne me laisse pas, ô gentil sauveur, alors que tu passes. Entends mon humble cri, alors que tu en appelles d'autres. Ne passe pas à côté de moi. Ô toi, esprit de tout mon soulagement, plus que la vie pour moi, qu'ai-je sur terre en comparaison de toi? Qu'ai-je dans le ciel, sinon toi? C'était William Chapman qui exprimait ce qu'il pensait du Christ dans ses paroles. Vivant, il m'aimait. Mort, il m'a sauvé. Enseveli, il m'enleva mes péchés. Ressuscité, il me justifia généreusement pour toujours. Un jour il viendra, ô jour glorieux. William Branham, que pensez-vous du Christ? Quelle est votre opinion à son sujet? Oh, si j'avais 10 millions de langues pour parler, je ne pourrais jamais exprimer mes pensées à son sujet. Je suis issu d'une famille pécheresse. Un jour, mourant là-bas sur un lit, les docteurs m'examinèrent et me dirent que je n'avais plus que 3 minutes à vivre. Et subitement, quelqu'un passa sur mon chemin. C'était le Fils béni de Dieu qui m'a sauvé du péché. Il m'a soulagé, moi et mes yeux aveugles, et il m'envoyait de par le monde pour prêcher l'Évangile. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore, je ne pourrai jamais exprimer exactement ce que je pense de lui.